les convives emplissaient la salle du festin. Elle avait 3 nefs, comme une basilique, et que séparaient des colonnes en bois d'algumin, avec des chapiteaux de bronze couverts de sculptures. 2 galeries, à claire-voie, s'appuyaient dessus, et une 3e en filigrane d'or se bombait au fond, vis-à-vis d'un cintre énorme qui s'ouvrait à l'autre bout. Des candélabres brûlants, sur les tables alignées, dans toute la longueur du vaisseau, faisaient des buissons de feu, entre les coupes de terre peintes et les plats de cuivre, les cubes de neige, les morceaux de raisin. Mais ces clartés rouges se perdaient progressivement, à cause de la hauteur du plafond, et des points lumineux brillaient, comme des étoiles, la nuit, à travers des branches. Par l'ouverture de la grande baie, on apercevait des flambeaux sur les terrasses des maisons. Car Antipas fêtait ses amis, son peuple et tous ceux qui s'étaient présentés. Des esclaves, alertes comme des chiens, et les orteils dans des sandales de feutre, circulaient, emportant des plateaux. La table proconsulaire occupait, sous la tribune dorée, une estrade en planches de sycomore. Des tapis de Babylone l'enfermaient dans une espèce de pavillon. 3 lits d'ivoire, un en face et 2 sur les flancs, contenaient Vitellius, son fils, et Antipas, le proconsul étant près de la porte, à gauche. Aulus à droite, le tétrarque au milieu. Il avait un lourd manteau noir, dont la trame disparaissait sous des applications de couleurs. Du fard aux pommettes, la barbe en éventail, et de la poudre d'azur dans ses cheveux, serrée par un diadème de pierreries. Vitellius gardait son baudrier de poudre, qui descendait en diagonale sur une toge de lin. Aulus s'était fait nouer dans le dos les manches de sa robe en soie violette, lamée d'argent. Les boudins de sa chevelure formaient des étages, et un collier de saphir étincelait sur sa poitrine, grasse et blanche comme celle d'une femme. Près de lui, sur une natte et jambes croisées, se tenait un enfant très beau, qui souriait toujours. Il l'avait vu dans les cuisines, ne pouvant plus s'en passer, et, ayant peine à retenir son oncle Adéen, l'appelait simplement l'Asiatique. De temps à autre, il s'étalait sur le triclinium. Alors ses pieds, nus, dominaient l'assemblée. De ce côté-là, il y avait les prêtres et les officiers d'Antipas, des habitants de Jérusalem, les principaux des villes grecques, et sous le proconsul, Marcellus avec les publicains, des amis du tétrarque, les personnages de Cana, Ptolémède, Jéricho, puis pêle-mêle, des montagnards du Liban, et les vieux soldats d'Hérode. 12 Thraces, un Gaulois, 2 Germains, des chasseurs de gazelles, des pâtres de l'Idumée, le sultan de Palmyre, des marins des Ongabères. Chacun avait devant soi une galette de pâte molle pour s'essuyer les doigts. Et les bras, s'allongeant comme des coups de vautour, prenaient des olives, des pistaches, des amandes. Toutes les figures étaient joyeuses, sous des couronnes de fleurs. Les pharisiens les avaient repoussés comme indécence romaine. Ils frissonnèrent quand on les aspergea de galbanum et d'encens, composition réservée aux usages du temple. Aulus en frotta son aisselle, et Antipas lui en promit tout un chargement, avec 3 couffes de ce véritable baume qu'avait fait convoiter la Palestine à Cléopâtre. Un capitaine de sa garnison, de Tibériade, survenu tout à l'heure, s'était placé derrière lui pour l'entretenir des événements extraordinaires. Mais son attention était partagée entre le proconsul et ce qu'on disait aux tables voisines. On y causait de Yao Canaan et des gens de son espèce. Simon de Guitoy lavait les péchés avec du feu. Un certain Jésus. « Le pire de tous !» s'écria Alzéar. « Quel infâme bateleur !» Derrière le tétrarque, un homme se leva, pâle comme la bordure de sa chlamyde. Il descendit de l'estrade et interpella les pharisiens. « Mensonge ! Jésus fait des miracles !» Antipas désirait en voir. « Tu aurais dû l'amener ! Renseigne-nous !» Alors il conta que lui, Jacob, ayant une fille malade, s'était rendu à Capharnaüm pour supplier le maître de vouloir la guérir. Le maître avait répondu « Retourne chez toi, elle est guérie !» Et il l'avait trouvée, sur le seuil, étant sortie de sa couche quand le gnomon du palais marquait la 3e heure, l'instant même où il abordait Jésus. Certainement, objectèrent les pharisiens, il existait des pratiques et des herbes puissantes. Ici même, à Makéorou, quelquefois on trouvait le Baharas, qui rend invulnérable. Mais guérir sans voir ni toucher était une chose impossible, à moins que Jésus n'employait les démons. Et les amis d'Antipas, les principaux de Galilée, reprirent, en hochant la tête. Les démons, évidemment. Jacob, debout, entre leur table et celle des prêtres, se taisait d'une manière hautaine et douce. Il le sommait de parler. « Justifie son pouvoir !» Il courba les épaules. Et à voix basse, lentement, comme effrayé de lui-même. « Vous ne savez donc pas que c'est le Messie ?» Tous les prêtres se regardèrent, et Vitellius demanda l'explication du mot. Son interprète fut une minute avant de répondre. Ils appelaient ainsi un libérateur qui leur apportait la jouissance de tous les biens et la domination de tous les peuples. Quelques-uns même soutenaient qu'il fallait compter sur deux. Le premier serait vaincu par Gog et Magog, les démons du Nord. Mais l'autre exterminerait le prince du mal. Et, depuis des siècles, il l'attendait à chaque minute.